Du 22 au 23 septembre dernier, il s'est tenu à Kinshasa une session de formation organisée par la Banque centrale à l'intention des avocats, notaires et conservateurs des titres immobiliers. Objectif, mettre en place un dispositif opérationnel de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cependant, quels sont les mécanismes mis en place par la Banque centrale pour mettre un terme à ces fléaux? Nous avons notre invité dans ce studio, Siri Chungu, coordonnateur de grève. Monsieur Siri Chungu, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, une fois encore, la Banque centrale se lance dans la lutte contre le blanchiment d'argent, mais cette lutte n'a pas débuté qu'en 2008, c'est depuis 2002. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, les choses traînent encore et on ne voit pas d'action visible de la Banque centrale autour de cette question?
Merci bien. Je voudrais d'abord commencer par vous dire merci. Merci de l'opportunité que vous accordez à la Banque centrale, intervenant ici à travers ma modeste personne, de débattre avec vous du sujet qui fait la préoccupation de l'ensemble de la communauté internationale. J'ai cité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Effectivement, vous voulez savoir pourquoi les choses ont traîné en longueur. Je voudrais seulement vous dire qu'effectivement, la RDC était plutôt au rendez-vous depuis 2002, parce que déjà en novembre de cette année, le gouvernement de la République avait mis en place une nouvelle stratégie de lutte contre le crime transnational organisé, ainsi que la corruption. Et la Banque centrale a pris le relais, pratiquement au mois de février 2003, par une décision de M. le gouverneur, qui a mis à cette occasion en place le groupe de réflexion sur le blanchiment des capitaux, initialement composé des agents de la banque. Ce groupe a été élargi à des experts extérieurs, du monde scientifique, de la magistrature, et in fine à un certain nombre d'institutions et services publics. C'est l'ensemble des experts réunis dans ce cadre qui a produit l'avant-projet de loi, qui a été transmis en son temps aux instances compétentes, d'abord au gouvernement, lequel a transmis le projet au niveau du Parlement. Et en 2004, c'était en 2004, et le 19 juillet, il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de promulguer la loi qui a fait l'objet justement des travaux du 22 et 23 septembre dernier en même ligne. Donc on ne peut pas dire que les choses ont tiré en longueur. Vous pouvez voir qu'il y avait une séquence d'actions qui ont été posées et qui nous ont conduit à cela.
Oui, mais tout à fait raison, monsieur. Vous avez tout à fait raison, monsieur Chungu. Mais il y a une préoccupation parce que d'aucuns pensent que la Banque centrale s'est réveillée suite à cette réaction d'un rapport belge d'il y a 6 mois qui faisait état de la RDC comme un des foyers africains de blanchiment d'argent. Et certains d'ailleurs observateurs financiers ont même à cet effet mentionné la participation probable de la Banque centrale du Congo à l'effervescence de ce phénomène financier tant décrié de 6 siècles derniers en Afrique tout particulièrement et au monde en général. Est-ce qu'on peut dire que cette campagne vient juste constituer une justification pour dire que la Banque centrale n'y est pour rien?
Que du contraire. La Banque centrale s'est engagée dans cette voie, je vous l'ai dit, depuis quasiment 2002. Je vous ai dit tantôt que c'est le gouvernement qui avait donné le ton en novembre 2002. Avec la nouvelle stratégie de lutte contre ce type de crime transnational organisé. Et nous sommes en 2003, en février, lorsque le gouverneur en interne prend une décision portant création du groupe de réflexion sur le blanchiment de capitaux. Et pendant longtemps, en 2003, en 2004, en 2005, sous décision de M. le gouverneur, des cadres de ce groupe, composés des agents de la banque et des experts extérieurs, ont sillonné un certain nombre de pays, la Belgique, la France, le Maroc, l'Afrique du Sud, et tant d'autres, pour justement s'imprégner des mécanismes de cette lutte à laquelle tout le monde était convié, étant donné qu'il s'agit là des infractions qui peuvent se passer sur plusieurs frontières à la fois. Commencer dans un pays A et terminer dans un pays C en transitant par le pays B. Alors, dire que la Banque centrale a attendu, ce qui est une rumeur, que la rumeur vienne pour se lancer dans cette campagne, je dis que c'est non. Les 22 et 23 septembre dernier, nous avons organisé à l'intention des avocats et des experts.
Oui, ben,
et
c'est là la question, pourquoi avoir associé les avocats, les notaires, les conservateurs immobiliers?
Tout simplement parce que ils sont des assujettis au sens de la loi. Un assujetti, en fait, c'est quelqu'un qui est appelé aussi à contribuer à la lutte. Et lorsque vous lisez l'article 4 de la loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux, vous aurez au premier rang des assujettis de la Banque Centrale du Congo elle-même et une série d'assujettis au nombre de 13 environ, et parmi lesquels vous trouvez les experts comptables et les avocats. Alors, nous n'avons pas commencé par les experts comptables et les avocats. Moi qui vous parle, sous décision de M. le gouverneur, j'étais avec une autre équipe il y a 2-3 ans à Lubumbashi, justement dans le cadre de la vulgarisation de la loi anti-blanchiment. Donc on ne peut pas dire que c'est à peine hier ça a commencé.
Oui, mais l'inquiétude c'est que aujourd'hui, si la communauté internationale, il y a certains rapports de la communauté internationale qui font état de la participation de la Banque centrale, comme je l'ai dit, à cette effervescence de ces phénomènes tant décriés. Comment la même banque qui est pointée du doigt organise la campagne? C'est comme vous dire, c'est un voleur qui crie au voleur.
D'abord, je vous dis que personnellement, je n'ai pas vu ce rapport. Je ne l'ai jamais vu dans nos services. Nous n'en avons jamais été saisis d'une manière quelconque. J'ai appris par oui dire que c'était rapporté dans les journaux. Mais vous comprenez qu'en toute raison,
c'est des rumeurs.
Ça ne peut être que des rumeurs. Parce que ça vient de la Belgique. Nous étions en Belgique. Nous étions en Belgique dans le cadre de la formation pour le blanchiment des capitaux. Nous avons été à la police belge, nous avons été à la CETIF belge, nous avons été à la Banque nationale de Belgique, nous avons été dans toutes les structures de lutte de blanchiment qu'à la Belgique, dans le cadre de l'approche que nous faisions afin de maîtriser ce phénomène-là. Parce qu'il faut comprendre que c'est une lutte qui doit être impérativement concertée et coordonnée à l'échelle planétaire. Il faut donc que nous ayons des approches qui convergent. La même chose a été faite en France. Donc, je ne vois pas comment on peut le dire. Moi, je ne prête pas foi à ça. Je mets ce sujet en
avant. Encore faut-il que cette lutte soit menée en tenant compte des approches ou des stratégies qui répondent aux standards universels.
Oui.
De la même manière que possèdent d'autres pays. Est-ce que la RDC est à même de pouvoir faire autant?
Pourquoi pas? Ne nous minimisons pas. La RDC a les compétences pour le faire, et elle a des raisons pour le faire. D'abord, pourquoi? Lorsque vous regardez, par exemple, l'étendue géographique de notre pays, lorsque vous regardez le caractère informel dominant de notre économie, la prédominance de la monnaie fiduciaire dans les transactions, la sous-administration territoriale, l'immigration et l'immigration massive, ce sont autant de raisons qui nous commandent d'être vigilants. Nous avons intérêt à le faire. C'est vrai qu'il y a eu des standards, des modèles internationaux qui ont été faits. Mais ce n'était pas des prêt-à-porter qu'il fallait prendre comme ça dans sa sphère, dans chaque État. Essaye d'adapter ce modèle-là à ses réalités locales. Je vous donne un cas de convergence, notamment en ce qui concerne les transactions en cash. Aujourd'hui, d'après la loi qui est en vigueur depuis 2004, il est interdit de procéder à des opérations au-delà de 10 000 $ en cash. Pourquoi 10 000 $ ? 10 000 $ tout simplement parce que nous avons observé que la plupart des pays qui avaient déjà une législation avaient fixé ce montant à 10 000 $. Et c'est pour des raisons pratiques. Si vous devez quitter Kinshasa par exemple par l'aéroport international ou n'importe quel point de frontière et que vous tombez dans un état où chez nous par exemple c'est 4 000 et chez eux c'est 2 000, mais vous êtes en infraction. Donc il y a quand même intérêt là à pouvoir adapter certaines choses aux réalités locales et d'autres à les garder alignées sur les standards internationaux.
Alors, où en est-on avec les trois textes réglementaires en la matière adoptés par le Conseil des ministres du 29 août 2008 ?
Bon, les textes ont été adoptés le 29 août 2008, au nombre desquels, notamment, le décret portant création de la Cellule nationale de renseignement financier, qui est un instrument clé dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Parce que toutes les déclarations de soupçon, notamment qui émanent des différents assujettis, sont censées être dirigées vers la Cellule nationale de renseignement financier. Même si le décret a été signé il y a la semaine dernière, mais on ne peut pas penser qu'aujourd'hui, cette structure est opérationnelle. Elle n'a pas encore son animateur. Et quand bien même elle en aurait déjà, celui-ci doit installer les structures. Ça prendra un petit temps avant que ça ne soit effectif. Donc, nous en sommes là.
Oui, nous avons tous suivi l'allocution du gouverneur de la Banque Centrale à l'ouverture de ce séminaire organisé du 22 au 23. Je cite ce propos. On ne développe pas un pays avec l'argent sale, mais plutôt avec des capitaux sains. Voilà, donc avec des capitaux sains. Peut-on dire qu'il s'agit là d'une volonté manifeste de votre institution de vouloir éradiquer une fois pour toutes cette gangrène? Est-ce que vous en avez le moyen de monter politique?
Il est évident que la décision ou la détermination de la Banque Centrale, que l'on lit d'ailleurs dans les propos de M. le gouverneur auquel vous venez de
faire
allusion, c'est une détermination farouche pour éradiquer le système. C'est un des objectifs.
Est-ce que vous en avez le moyen de monter politique?
Il
faut travailler en synergie, soit avec la police, soit avec les GM, soit avec tout ce service de l'État qui pourrait vous aider à amener à bon port vos actions. Mais dans bien des cas, ces services sont cités parmi les grands services qui, disons, à la longueur de journée, occasionnent la corruption.
Les moyens, nous les avons. Mais nous ne pouvons pas dire à ce stade que nous avons tous les moyens. C'est une question d'aller progressivement. Nous sommes dans une économie informelle, par exemple.
Depuis 2002, 2008, progressivement. Et s'il faut encore ajouter d'autres progressions, ça peut aller même en 2015.
Je dois vous dire, peut-être que le blanchiment de capitaux est aussi vieux que le monde. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et si c'est aussi vieux que le monde lui-même s'est réveillé à un moment donné. Il ne faut pas oublier qu'un coup de fouet dans cette lutte est venu à la suite des événements du 11 septembre. C'est là qu'on a vu le lien étroit qu'il peut y avoir entre l'argent sale et notamment le financement du terrorisme, qui apparemment ne fait pas l'objet de que vous avez introduit le sujet. Nous pourrons en parler. Donc, il y a eu un déclic à l'échelle internationale qui a réveillé tout le monde. Mais je ne suis pas en train de dire qu'avant le 11 septembre 2011, il n'y avait pas la lutte contre le blanchiment de capitaux. Et elle avait déjà commencé dans certains pays.
Non, mais le problème, c'est que vous avez associé les notaires, les conservateurs, les avocats, mais nulle part nous avons vu les policiers.
Je vous
contrôle les frontières.
Je vous informe que les policiers sont là. Si vous permettez, je peux peut-être vous resituer. Je vous ai dit tantôt qu'il y a eu en 2005, le gouverneur avait mis en place le groupe de réflexion sur le blanchiment des capitaux qui a été élargi à cette occasion-là. Quels sont les services qui ont été associés aux experts de la Banque Centrale? Les représentants des services de la présidence de la République. Nous sommes à l'époque de 1 plus 4. Il y avait la vice-présidence de la République chargée des questions économiques et financières. Il y avait le ministère des Finances, le ministère de la Justice, l'Office des douanes et accises, le comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques, la DGI, Direction générale des impôts, la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, l'Interpol, vous parliez de la police, on a même associé l'Interpol, la Commission nationale de lutte anti-drogue et la police nationale congolaise. Elle était bien là. Donc nous n'avons laissé personne.
Oui, mais autrement dit, il faut penser à la formation de cette police. Vous savez, comme moi, entre guillemets, je n'aime pas, c'est ce que je dis, le niveau parfois de nos policiers. Là, ça demande quand même un renforcement des capacités. Qu'est-ce que vous avez pensé dans cette lutte à reformer ou à recycler, ces policiers?
Nous avons pensé, pas que les policiers. Tout le monde doit être formé et tout le monde doit être recyclé. Et cette formation ne doit pas se contenter d'être ponctuelle, elle doit être permanente. Vous avez fait allusion aux travaux qui se sont déroulés la semaine dernière à l'hôtel Nelling. Une des recommandations du discours du gouverneur, c'était quoi? C'était la formation permanente, qu'il fallait maintenir le cap. Elle concernait pas que les avocats ou les experts qui étaient là, les experts comptables, je veux dire. Elle concernait tous les assujettis. Et toutes les personnes impliquées dans le cas de cette lutte.
Oui, la lutte exige quand même des moyens, des moyens financiers, je veux dire. Vous avez déjà eu à évaluer les coûts de cette lutte?
Bon, disons que des moyens financiers, ce serait...
Vous faites partie de groupe de réflexion. Oui. Vous avez déjà eu à réfléchir sur le coût, parce que ça demande quand même des moyens conséquents.
Il est évident que ça requiert des moyens et des moyens conséquents. Je vais vous donner un exemple à l'échelle planétaire. D'après Olivier Jaurès, c'est une des références doctrinales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, qui a écrit un ouvrage intitulé « Le blanchiment de l'argent ». Dans une de ses précédentes éditions, il souligne, il revient sur les travaux qu'auraient fait les experts, notamment de Bretton Woods, donc Fonds monétaire et Banque mondiale, et qui s'étaient livrés à l'analyse des flux financiers qui se « baladaient » dans le monde. Ils en étaient arrivés à dégager une masse d'environ 1000 milliards en balade sans qu'on en connaisse les propriétaires. 1000 milliards de dollars. Si nous nous amusons à prendre les 20 dernières années une moyenne du budget de la RDC, cela ferait à peu près 1000 ans de budget RDC. Vous voyez déjà à l'échelle planétaire l'effort que nous devons faire pour combattre ça. Vous pouvez, par déduction, voir ce qui nous attend en RDC. Ça demandera donc des moyens. Nous ne les avons pas maintenant. Il ne faut pas croire que c'est une lutte de tous les instants. On va pas.
Sur les moyens extra-budgétaires, j'imagine pas dans le budget de l'État qu'on puisse réserver une rubrique pour la lutte contre le blanchiment des capitaux. C'est que les moyens proviendront de la Banque centrale.
Parce que de la Banque centrale, comment ? Les moyens doivent provenir de l'État. Ces moyens seront générés, notamment par exemple, lorsque vous. Les fonds qui seront confisqués, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, tous ces fonds-là viendront alimenter justement le fonds de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il est évident que ces fonds ne pourront peut-être pas être suffisants et que ça demandera un effort additionnel. Naturellement, les autorités compétentes, les structures compétentes s'investiront.
Oui, alors il y a des réactions, on va terminer par là, beaucoup de réactions. Là, nous prenons une qui vient d'Ecologie.
Oui.
Il y a un auditeur qui veut savoir ce que signifie concrètement le blanchiment des capitaux et il insiste en disant nous avons des frappeurs, c'est comme ça qu'on les appelle,
oui.
Les frappeurs éparpillés en RDC. Et la Banque centrale sait déjà, il a déjà identifié certains endroits où s'opèrent ces genres de transactions ou peut-être ces phénomènes. Pourquoi ne pas mettre directement la main pour ces messieurs? C'est la Banque centrale qui favorise ces genres de phénomènes.
Bon,
d'abord, qu'est-ce que le blanchiment des capitaux?
Je vous fais grâce de la définition doctrinale là-dessus qui va sur plusieurs considérations et compte tenu du temps qui nous est imparti, permettez-moi de vous donner immédiatement la définition que donne la loi pour être plus pratique. Eh bien, elle s'analyse en des cas de figure, si je peux ainsi dire. Il y a trois cas de figure. Le premier, c'est la conversion, le transfert ou la manipulation des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle des biens. Enfin, dernier cas de figure, l'acquisition, la détention ou l'utilisation des biens par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que les biens constituent une infraction. Il est entendu que dans les trois cas de figure, cette condition cumulative, qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir, et d'application. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais de manière simple. Le blanchiment d'argent, c'est quoi? C'est en fait prendre l'argent sale, c'est-à-dire acquis illégalement, soit à la suite d'un détournement des deniers publics, soit à la suite du vol, tout court, soit à la suite du trafic d'organes humains, bref, il y a toute une panoplie d'infractions qui peuvent donner le caractère sale à cet argent. Donc, prendre cet argent d'origine sale et lui donner in fine l'apparence des revenus propres à travers une succession d'opérations qui sont justement destinées à le blanchir.
La contrefaçon?
La contrefaçon peut procéder de blanchiment de capitaux dès lors que l'argent contrefait parvient à être introduit dans le circuit formel, dans le circuit économique.
Mais il y en a plein dans notre système bancaire. Est-ce que votre banque centrale n'est pas touchée par la crise financière mondiale? Ça, c'est une question de curiosité de Angoyo Akifanadi, et c'est par là qu'on va terminer.
Bon, je dois vous dire que la crise est toute présente. Il est difficile aujourd'hui d'évaluer l'impact de cette crise au niveau de notre pays. Et il faut donner le temps au temps. D'ici là, les instances officielles de la banque pourront répondre plus utilement à cette question.
Sylvie Tchungu, vous êtes coordinateur de GREB, groupe de réflexion et de management d'argent à la Banque Centrale. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.